Alors, en préparant mon exposé, j'avais l'intention, à partir d'une constellation formée donc par Carl Schmitt, Helmut Plessner et Martin Heidegger, trois témoins, voire acteurs pour deux d'entre eux, de l'effondrement de la République de Weimar au début des années 1930. J'avais donc l'intention de synthétiser sous une lumière critique les réflexions de ces auteurs sur la communauté, pour les relier au débat franco-italien commencé au début des années 1980, de Blanchot à Derrida, en passant par Nancy, Agamben et Esposito. Un débat sur la communauté, sur l'exigence communiste et sur les rapports de cette exigence avec la possibilité ou l'impossibilité de cette communauté. Un débat qu'il faut d'ailleurs distinguer de certains courants néo-communistes plus récents. Et je songe à des auteurs comme Žižek, Negri ou Badiou. Mais chemin faisant, ce programme bien trop ambitieux s'est en quelque sorte allégé et je me suis résigné à réduire la place dans cette constellation weimarienne de Heidegger, bien que Heidegger, on le sait, est l'une des références majeures et explicites dans la pensée de la communauté chez Jean-Luc Nancy, chez Roberto Esposito, et aussi sans doute chez Giorgio Agamben et Jacques Derrida. Et relire Heidegger eut permis peut-être de réinterroger, de compliquer certains axiomes de ces mêmes penseurs sous l'aspect d'une pensée de la communauté. Alors sous le titre un peu modifié de la communauté excentrique, je tâcherai donc de contribuer au thème général de l'être ensemble depuis un angle plus restreint, à savoir depuis le débat entre Carl Schmitt, l'un des théoriciens du droit et des juristes les plus controversés du dernier siècle, et Helmut Plessner, une figure importante de ce qu'on appelle l'anthropologie philosophique allemande, encore trop méconnue en France. Alors, je vais d'abord examiner la transformation que Plessner imprime au concept schmittien d'ami-ennemi, distinction censée fonder le politique comme tel et la forme de l'être ensemble qu'il implique. Je tenterai ensuite de dégager quelques pistes pour relier cette transformation plessnerienne à certains thèmes qu'elle présuppose, notamment celle de l'intersubjectivité, mais aussi je tenterai de relier cette transformation plessnerienne au débat sur la communauté que je viens d'évoquer. Donc le débat franco-italien, pour faire bref. Alors, au chapitre 9 de Macht und menschliche Natur, Pouvoir et nature humaine, de 1931, ouvrage non traduit, chapitre qui s'intitule L'être exposé de l'homme, Plessner paraît faire sienne, dès les premières phrases, la célèbre distinction schmittienne entre ami et ennemi. Je cite Plessner. L'homme, en tant que pouvoir, se situe nécessairement dans la lutte pour ce pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition entre le familier et l'étranger, entre l'ami et l'ennemi. Plessner souligne l'ami et l'ennemi. Fin de citation. Alors, en retour, pour ainsi dire, Carl Schmitt répond à cette référence dans la version de 1932 de son opuscule Le concept de politique, ou la notion de politique, comme c'est traduit en français, Der Begriff des Politiken. Qui paraît en 1927, première édition. Et où il note, Carl Schmitt, dans un passage qu'il supprimera dans la réédition de 1933, après la prise de pouvoir par Hitler, dont je traduis un peu librement pour l'occasion, je cite Carl Schmitt, « Helmut Plessner, premier philosophe moderne à avoir osé une anthropologie politique de grand style, dans son livre « Pouvoir et nature humaine » Berlin 1931, affirme à juste titre qu'il n'y a pas de philosophie ni d'anthropologie sans impact politique, de même qu'il n'y a pas, à l'inverse, de politique sans impact philosophique. » Un peu plus loin, Schmitt continue. « Pour Plessner, » alors ici Schmitt paraphrase certaines formules de Plessner tirées du livre que je viens de citer, « Donc, Schmitt paraphrase, l'homme est un être qui, primordialement, établit une distance et qui, dans son essence, demeure indéterminé, insondable, une question ouverte. Toujours Schmitt, traduit dans le langage primitif de l'anthropologie politique naïve qui travaille avec la distinction entre le bien et le mal, donc un langage que Schmitt venait de critiquer, mais qu'il ne se prive pas de reprendre à des fins pédagogiques. L'être ouvert dynamique de Plessner, caractérisé par une proximité risquée avec le réel et les choses, est sans doute plus près du mal que du bien, ne serait-ce qu'en vertu de son rapport positif au danger et au dangereux. Et on sait que Schmitt valorise ce rapport supposé au danger d'une doctrine ou d'une pensée, mais j'y reviendrai plus tard. Donc Schmitt continue. En concordance avec cela, le fait que Hegel et Nietzsche, eux aussi, sont à classer du côté du mal, et le fait qu'en dernière instance, le pouvoir, comme tel, relève du mal. Fin de citation. Alors, avant de me pencher sur le réinvestissement plessnérien de la distinction ami-ennemi, je voudrais dire un mot du rapport singulier entre ces deux penseurs, que tout paraît éloigné. Surtout si on considère leur trajet respectif d'après-guerre. Il est vrai que c'est précisément sur ce point délicat de la distinction conceptuelle ami-ennemi que se joue la question de l'éventuelle affinité, fût-elle limitée dans le temps, entre Plessner et Schmitt. Entre eux, pour le dire vite, un social-démocrate, juif, converti au protestantisme, universaliste, et un aventurier intellectuel, fascisant, penseur ultra-catholique du droit européen, collaborateur du régime national-socialiste, défenseur d'une forme d'absolutisme politique férocement antidémocratique, c'est-à-dire, et j'y reviendrai dans un instant, défenseur d'une forme de théologie politique. Alors cette liaison dangereuse entre Plessner et Schmitt, lesquels se sont d'ailleurs rencontrés une fois à Berlin en 1930, a été occultée ou, disons, négligée jusqu'à une date assez récente, jusqu'au début des années 1990. Ce type de liaison, toujours surdéterminée et stratifiée, jamais simple, se situe pourtant dans la lignée équivoque de la fascination que Schmitt a pu exercer sur des esprits comme Walter Benjamin, Leo Strauss, et après la guerre sur Jakob Taubes ou Hans Blumenberg. On peut y voir autant de reflets et de fragments problématiques qui restent à interpréter de la complexe psyché judéo-allemande au destin mouvementé. Mais au-delà de cette liaison dangereuse, de cet être avec risqué entre Plessner et Schmitt, que je vais examiner dans ce qui suit, il faut aussi rappeler ici l'affinité troublante, déjà soulignée dans les années 1990 par Jacques Derrida, dans Politique de l'amitié, entre le discours schmittien et les figures en apparence les plus révolutionnaires, comme Lénine et Mao, figures auxquelles Schmitt se réfère dans la théorie du partisan, mais aussi entre Schmitt et certaines gauches ou extrêmes gauches européennes de la seconde moitié du XXe siècle. Derrida, dans l'ouvrage cité, dans « Politique de l'amitié », ne voyait pas dans cette sympathie pour Schmitt quelques confusions interprétatives, mais il y voyait un immense symptôme historico-politique. Et il reconduisait ses sympathies notoires pour Schmitt à Hegel, plus exactement à l'hommage schmittien à Hegel. Hegel qui, en émigrant à Moscou, s'étend virtuellement à sa postérité marxiste par le truchement de la notion d'ennemi de classe, le capitaliste bourgeois. Hommage qui réside dans la définition de l'ennemi comme « sittliche Differenz », comme différence éthique, l'ennemi comme quelque chose d'étranger à nier, selon l'expression de Hegel citée dans le concept de politique. Alors j'en viens précisément à la fameuse distinction de l'ami et de l'ennemi à laquelle Plessner paraît se référer, on l'a vu. Dans le concept de politique, donc, Schmitt formule en termes hegéliens cet axiome de l'ami-ennemi. Je cite Schmitt, « Le sens de la distinction entre ami et ennemi est de désigner le degré d'intensité extrême d'une liaison ou d'une séparation, d'une association ou d'une dissociation. L'ennemi politique n'a nul besoin d'être moralement méchant, ni d'être esthétiquement laid. Il ne doit pas nécessairement se présenter comme un concurrent économique. Faire des affaires avec lui peut même sembler avantageux, car il est l'autre, l'étranger, der andere, der fremde. Et il suffit à sa nature qu'il soit existentiellement quelque chose d'autre et d'étranger, dans un sens particulièrement intensif, en sorte que si un cas extrême venait à se présenter, il serait possible d'entrer en conflit avec lui. Fin de citation. Alors, dans cette distinction, tant commentée et surcommentée, la figure de l'ennemi, dans sa possibilité structurante d'une communauté ou d'un peuple, est censée déterminer le politique comme tel, et en dessiner la configuration, puisque cette distinction impliquerait une décision souveraine quant à l'ennemi qui doit être possible, dans le cas extrême qui est la guerre, en vertu du jus belli d'un État, du droit de la guerre d'un État, d'éliminer physiquement. Cette possibilité réelle du conflit guerrier étant la garantie pour Schmitt de la perdurance du politique. Alors, toujours dans le concept de politique, Schmitt écrit, je cite, « Les concepts d'amis, d'ennemis et de conflits reçoivent leur sens réel par ceci, qu'ils entretiennent et maintiennent un rapport à la possibilité réelle de la mise à mort physique. La guerre suit de l'hostilité, car celle-ci est la négation ontologique d'un autre être. La guerre n'est que la réalisation extrême de l'hostilité. » Fin de citation. Donc ce couple ami-ennemi qui marque l'intensité d'une association, d'un être avec, ou d'une dissociation, d'un être contre, cette opposition déterminée, qui a valeur de crible ou de discrimination, Unterscheidung, dit Schmitt. Schmitt dit l'avoir emprunté à plusieurs auteurs modernes, donc sans doute au contre-révolutionnaire Donoso Cortés, mais elle remonte en dernier lieu, et c'est là une hypothèse, et je vais un peu vite ici, à un certain paulinisme fondamentalement structurant. Paulinisme peut être mêlé de marcionnisme contre-révolutionnaire, comme on a pu le suggérer. Et ce lieu organise matriciellement la pensée schmittienne, notamment la pensée de la communauté, du rapport entre ses membres, c'est-à-dire de leur être avec ou être pour, constitué par un être contre déterminé. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'avènement de la parousie, le second avènement du Christ, implique la distinction de deux types d'hommes et de deux manières de vivre. Les dévoyés, les fils des ténèbres, qui prétendent vivre dans la paix et la sécurité du monde, et les fils de lumière, qui savent qu'il faut rester éveillé et veiller dans l'insécurité constante face au danger d'une situation instable dans l'attente eschatologique qui doit souder les premières communautés chrétiennes. Or, ce dualisme dérive plus profondément de cette cellule germinale qu'est la figure énigmatique du catéchone dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, du moins dans le miroir assez déformant de l'interprétation qu'en donnera Schmitt, surtout après la guerre. Dans ce passage obscur du deuxième chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens, et qu'Augustin déjà avoué ne pas être sûr de comprendre, il est donc question du catéchone, de ce qui ou de celui qui, neutre ou masculin, institution ou homme, retarde la venue de l'antéchrist et de la fin des temps. Alors je passe outre l'usage schmittien pour le moins flexible, occasionnaliste et opportuniste, parfois contradictoire, mais toujours ésotérique, entre guillemets, de la notion énigmatique, mystérieuse, le terme est chez Paul, mystérieuse, du catéchone. L'identification du catéchone à laquelle invite Schmitt est pour le moins difficile, car à prendre le mystère du catéchone à la lettre, il faudrait miser sur la venue de l'antéchrist, voire en souhaiter paradoxalement l'accélération, car un catéchone qui retiendrait l'antéchrist retiendrait aussi du même coup la parousie. Et ce qui n'est pas souhaitable, seule l'arrivée de Christ pouvant résorber le désordre planétaire et l'anarchie, c'est-à-dire tout ce que redoute Schmitt. Peu importe ici, je laisse ces questions à l'exégèse schmittienne. Ce qui est en jeu ici, c'est de comprendre que, quelles que soient les formes que prend chez Schmitt la figure du catéchone, celle-ci, utilisée comme une sorte de joker ou de carte blanche, donne lieu à une théologie politique de l'histoire qui commande et régule sa doctrine de la manière la plus intime, y compris et surtout sa distinction conceptuelle fondamentale, ami-ennemi, et l'idée de communauté qui en découle, c'est-à-dire son axiome de l'être avec comme être contre, fondateur de l'être ensemble, selon un foyer transcendant et à vrai dire théocratique, et donc non démocratique, qui doit réguler depuis l'extérieur la communauté, qui doit instituer le lien entre ses membres. La doctrine politique de Schmitt est commandée en dernière instance par une certaine théologie. Mais Schmitt dissimule sur un mode ésotérique sa théologie. Il fait une sorte d'immanentisme sécularisé. Alors pour dévoiler ou démasquer son ésotérisme, il faudrait donc, dans ce sens, appliquer à Schmitt lui-même la thèse centrale très connue de son opuscule « Théologie politique », c'est le titre, de 1922. Je cite « Tous les concepts prégnants ou significatifs de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. » Donc le concept de théologie politique est une arme pour Schmitt. C'est un concept qui, comme tous les concepts politiques et donc théologico-politiques, abrite un sens polémique, comme il dit. C'est un concept qui est lié à une situation polémique concrète, c'est-à-dire à un antagonisme qui suscite un être contre concret. Sous cet aspect, on situe mieux la légitimation catéchontique et théocratique de la violence dictatoriale de l'État total. Schmitt, après 1933, se voyant peut-être en retardateur anti-apocalyptique de la fin de l'histoire et de la fin du politique, œuvrant contre les accélérateurs apocalyptiques que serait la neutralisation ou la dépolitisation éminemment liée, selon Schmitt, au processus déthéologisant de sécularisation, ce processus déthéologisant offrant paradoxalement, dans le même mouvement, l'occasion d'une re-théologisation. C'est en tout cas à peu près ce que semblait suggérer un peu ironiquement Hans Blumenberg dans son ouvrage « La légitimité des temps modernes » à propos de Schmitt. Si la sécularisation n'existait pas, il faudrait l'inventer, puisqu'elle permet à Schmitt de travailler à la concrétisation de certains concepts théologiques dans le politique, à politiser et à réaliser en quelque sorte la théologie, et à exhorter à la lutte re-théologisante pour des positions et des concepts contre l'ennemi supposé. Alors je télescope et résume ici plusieurs strates chronologiques dans l'œuvre schmittienne, strates qui néanmoins convergent par le truchement de la figure du catéchone vers l'émergence d'un ennemi matriciel que la communauté aurait en commun. Un ennemi contre lequel il s'agit d'être ensemble. Contre lequel s'édifie et s'institue l'être de cette communauté selon Schmitt. À savoir l'ennemi eschatologique, porteur et diffuseur d'anarchie, avant même l'ennemi que serait le libéralisme, ou la démocratie, ou le parti communiste, ou, après la guerre, l'État mondial technicisé, État mondial assez systématiquement et obsessionnellement judaïsé par Schmitt, selon un antisémitisme apocalyptique qui s'inscrit dans ce même schème antagoniste catéchontique. Alors cette surinterprétation réactualisante et mythifiante de ce théologoumène du catéchone, de la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul, en deçà des théologies politiques de l'absolutisme des XVIe et XVIIe siècles, permet donc à Schmitt de déchiffrer les événements historiques et de leur conférer un sens. Ce théologoumène, auquel Schmitt adhère par un acte de foi, comme il le dit lui-même, lui permet, en un mot, de s'orienter dans l'histoire. Et de s'orienter tout court, selon un besoin, pour ainsi dire, préconceptuel et quasi anthropologique d'orientation, dont la dynamique génère ou projette une conceptualité déterminée, en l'occurrence la distinction conceptuelle ami-ennemi. Car contrairement à Schmitt lui-même, qui a toujours prétendu qu'en élaborant la distinction ami-ennemi, il ne livrait que le diagnostic descriptif d'un phénomène, pour ainsi dire scientifique, et neutre sa pure structure formelle, je pense que, contrairement à cette approche, je pense que la matrice théologique impacte et configure son retour en la menaçant de ruine sa doctrine politique. et notamment sa distinction ami-ennemi. Alors, par-delà cette hypothèse de lecture d'une théologie comme politique, l'expression est de Blumenberg, c'est-à-dire d'une théologie comme idéologie de la politique, il faudrait par exemple se demander, mais ce serait débordé du cadre de cet exposé, dans quelle mesure cette orientation programmée, dictée par le théologoumène du catéchon, traduit symptomatiquement une réponse au chaos ou à l'anarchie, tant redoutée, craint par Schmitt, selon une crainte que Jacques Derrida, dans le texte que je citais au début, « Politique de l'amitié », a très justement qualifié, en un sens quasi psychanalytique, de panique réactive ou de phobie, consistant à s'inventer partout des ennemis et donc à les conjurer sous la forme, en cas de Schmitt, sous la forme ultime de l'adversaire, avec un grand A, l'antéchrist, de l'ennemi eschatologique à détruire, sous prétexte de voir dans cet être contre la condition de possibilité du politique, ou de la repolitisation d'une époque censément dépolitisée. À cet égard, l'affirmation schmittienne du politique est moins l'affirmation de l'état de nature comme état de guerre permanent, mais la négation de la sécurité, prétendument bourgeoise et démocrate, du statu quo, ce qui revient à faire de la guerre l'horizon indépassable du politique. Cette négation de la sécurité explique l'omniprésence de la rhétorique corrélative, qui est la rhétorique du danger, que Schmitt paraît valoriser comme possibilité perpétuelle du conflit. Dans le passage du concept de politique cité au début, Schmitt saluait Plessner comme penseur du danger, voire comme penseur dangereux, dans la lignée des penseurs pessimistes, entre guillemets, authentiquement politiques. Machiavel, Hobbes, De Maistre, Fichte, Nietzsche, et sans doute Schmitt se voyait-il lui-même dans cette lignée de penseurs dangereux. C'est d'ailleurs cette thèse ou ce credo de la dangerosité de l'homme que Léo Strauss, le jeune Léo Strauss, problématisait en 1932 dans son compte-rendu du concept de politique. Et dans une lettre adressée à Schmitt, lequel venait de lui rédiger une lettre de recommandation pour une bourse post-doc, la fondation Rockefeller, je crois, Strauss notait que le fondement dernier de la droite pessimiste et autoritaire en lutte contre les thèses anarchistes et optimistes est le principe anthropologique de la supposée méchanceté naturelle de l'homme. Méchanceté naturelle ou corruption irréductible qui appelle pouvoir et domination. Censé unir les membres d'une communauté selon une tendance antagoniste qui exclut d'autres hommes. Autrement dit, selon la distinction ami-ennemi, fondée sur l'anthropologoumène de l'homme naturellement méchant, ou, pour le dire en termes théologiques, naturellement pécheur et corrompu. Je voudrais me demander maintenant, dans un deuxième temps, si Plessner souscrit réellement au credo théologico-anthropologico-politique de Schmitt, comme on a pu le dire et comme Schmitt lui-même a pu le suggérer, en examinant le réinvestissement plessnérien de la distinction conceptuelle ami-ennemi. Donc je reviens à l'opuscule « Pouvoir et nature humaine » de 1931 et au chapitre 9, au début duquel Plessner précise l'analogie entre l'opposition ami-ennemi et l'opposition familier-étranger. Je cite un peu longuement Plessner. Nous concevons ici que la relation ami-ennemi appartient à la constitution essentielle de l'homme, et ce précisément parce que nous nous abstenons de soumettre l'homme à une détermination essentielle concrète, et que nous le traitons comme une question ouverte ou un pouvoir. Toujours Plessner. C'est dans son indétermination, Unbestimmtheit, son indétermination à lui-même, que se forme pour lui l'horizon insigne à l'intérieur duquel tout lui paraît familier et naturel, conforme à son essence et nécessaire, et à l'extérieur duquel tout lui paraît inconnu, hétérogène et non naturel, contraire à son essence et inintelligible. Fin de citation. Toute formation de communauté, tout regroupement social et ou politique, toute institution d'un être ensemble serait ainsi déterminée par la relation ami-ennemi que Plessner fait coïncider avec l'opposition entre un cercle familier et une étrangeté ou une étrangèreté, une Fremdheit, dit-il, non familière. Alors, il faut noter d'emblée que dans son interprétation, qui est donc aussi une transformation, Plessner historicise et relativise fondamentalement la distinction schmittienne ami-ennemi. Plessner note, toujours au chapitre 9 de son traité de 1931, je cite encore Plessner, « L'histoire de la culture montre un incessant déplacement de l'horizon de la non-familiarité inquiétante, unheimlichkeit, et corrélativement de la sphère de la familiarité amicale, en sorte que la transformation de la relation ami-ennemi ne peut être étudiée que d'un point de vue historique. » Toujours Plessner, c'est aussi la raison pour laquelle elle n'a pas nécessairement le sens d'une relation politique spécifique, parce qu'elle traverse toutes les situations de l'homme. Fin de citation. Alors, pour Plessner, cette distinction, avant d'être politique, est anthropologique. Alors, l'anthropologie de Plessner est fondamentalement universaliste et relativiste. Elle récuse l'absolutisation de la sphère familière d'un peuple, d'une communauté, en vertu de la possible universalité de l'humanité, de la Menschheit, humanité qui n'est cependant accessible que selon une immédiateté médiatisée, comme il dit. En l'occurrence, par le biais d'un peuple particulier et déterminé. C'est ce qui ressort du chapitre sur le peuple dans cet ouvrage de 1931, et dont on peut se demander comment Schmitt a bien pu en citer des extraits pour illustrer sa doctrine. En toute cohérence, Plessner ne peut alors évidemment que rejeter le critère de l'ami que Schmitt donnera en 1933, à savoir la Artgleichheit, c'est-à-dire l'homogénéité ethnique ou raciale, critère pseudo-scientifique qui plaçait Plessner, classé comme demi-juif, entre guillemets, par le nouveau régime, dans la sphère schmittienne de l'ennemi du peuple allemand, du folk allemand. Plessner sera d'ailleurs contraint à l'émigration. Et de ce rejet plessnérien témoignent les critiques que Plessner adressera après 1933 et après la guerre à cette distinction, ami-ennemi, et à Schmitt en général, qu'il situera dans les projets fascistoïdes d'esthétisation du politique au sens de Benjamin. Bon, je ne pense pas que Plessner considérait la distinction schmittienne ami-ennemi comme une pure structure formelle, qui serait détachable de son remplissement variable, y compris de son remplissement schmittien, même si cette distinction a été reçue et utilisée par à peu près toutes les positions possibles sur l'échiquier politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais il est indéniable qu'il y a un infléchissement certain entre le Plessner de 1924, l'auteur des « Limites de la communauté », un ouvrage non traduit, lui non plus, le Plessner de 1924, le critique de la communauté chaude, naturelle et ethnocentrée, le défenseur de la société bourgeoise, le théoricien de l'hygiène du tact et de la diplomatie. Donc un fléchissement entre ce Plessner-là et le Plessner de 1931 qui, sans conteste, suite à une sorte de crispation autoritaire passagère, sur fond de délitement de la République, accéléré par la crise de 1929, se meut dans une certaine proximité avec Schmitt. Mais une proximité qui, des deux côtés d'ailleurs, relève sans doute plus d'une sorte malentendu, tout en témoignant des intersections complexes, parfois troublantes, des positions et des penseurs à Weimar. Alors, il est peut-être plus intéressant, finalement, de se concentrer, et c'est ce que je vais faire maintenant, sur la dimension anthropologique pré-politique et sur la problématique de l'intersubjectivité, ou de l'être avec, telle qu'elle est mise en perspective chez Plessner, dans le même texte, à partir de la distinction ami-ennemi, reformulée selon la dialectique du propre et de l'étranger. Pour Plessner, la raison véritable de l'opposition familier-étranger, au fondement donc de la distinction ami-ennemi, n'est pas d'abord, bien qu'elle le soit aussi, la crainte d'une réaction, d'une réplique hostile de la part de ce qui est au-delà de cette limite, c'est-à-dire à l'extérieur du cercle familier. Je cite Plessner, « Cette angoisse, dit-il, cette angoisse s'enracine dans l'inquiétante non-familiarité de l'étranger, Unheimlichkeit des Fremden, et non dans les éventuels effets nuisibles sur sa propre sphère de familiarité. » Plessner continue, « Car l'étranger, neutre, das Fremde, l'étranger n'est pas simplement un autre, car l'étranger est le propre, das eigene, le connu, le familier, dans l'autre. L'étranger est le propre, le connu, le familier, dans l'autre, et en tant que l'autre. c'est-à-dire l'inquiétant non familier, das Unheimliche, pour rappeler une leçon de Freud. Fin de citation. Alors évidemment, la référence à l'article de Freud de 1919, das Unheimliche, traduit, je crois, par l'inquiétante étrangeté, alors, je le dis en passant, semble là aussi éloigner Plessner de Schmitt, du moins du Schmitt de 1932. Car il resterait à vérifier le degré de rapprochement de la dialectique freudo-plessnerienne de l'unheimlichkeit, de l'inquiétante étrangeté, que je n'approfondis pas ici, avec la dialectique de la reconnaissance telle qu'elle pourrait se déduire du Schmitt d'après-guerre. La médiation de ce rapprochement étant un certain Hegel, sans doute passé par le crible de Kojève, Alexandre Kojève, d'ailleurs lui-même lecteur de Schmitt. Sous l'aspect de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave, ou du mouvement, Bewegung, comme dit Hegel, du mouvement de la reconnaissance, l'ennemi n'est que, selon une formule sibylline souvent citée par Schmitt, l'ennemi n'est que la forme de notre propre question, car cet ennemi, comme autre, met en question le soi qui n'accède à lui-même que par l'autre. La conscience de soi, pour le Hegel de la phénoménologie de l'esprit, n'étant la conscience de soi en soi et pour soi, an und für sich, qu'en étant reconnu par l'autre. Bon, je laisse cette question ouverte. Bon, je reviens à Plessner qui, dans le chapitre 9, précise ce rapport intersubjectif, cet être avec, dans les termes suivants. Je cite, « L'homme ne se voit pas seulement dans son ici, mais aussi dans le là-bas de l'autre. La sphère de la familiarité n'est donc pas délimitée par nature et ne s'étend pas, pour ainsi dire extra-historiquement, jusqu'à une certaine limite, mais elle est ouverte et par là même lui donne accès à l'inquiétante non-familiarité, la Unheimlichkeit, de l'autre dans l'incompréhensible entrelacement, dit Plessner, du propre et de l'autre. L'entrelacement du propre et de l'autre. Fin de citation. Alors cette entrelacement du propre et de l'autre, Plessner le situe dans une position intermédiaire, un entre-deux, un zwischen, comme il dit, entre monde familier et monde étranger, qu'il pense par analogie avec le couple Umwelt, milieu biologique, et Welt, monde humain, l'homme participant des deux en vertu de sa nature à la fois animale et non animale. Bon, ce sont là des aspects de la biophilosophie de Plessner que je laisse un peu de côté ici. Le propre est un autre moi étranger, pour ainsi dire. Bon, chaque ego a en face de lui, ou à côté de lui, ou disons contre lui, dans tous les sens du terme, un alter ego. L'ego saisit l'altérité de cet alter ego en tant que lui-même. Parce que, dit Plessner, le propre est, EST, aussi l'autre. Et ce mode définit le rapport intersubjectif particulier de l'être avec comme être contre. Or, cette reformulation plessnerienne de la distinction schmittienne entre ami-ennemi peut s'inscrire sous le concept anthropologisé de la réciprocité des perspectives et ouvrir sur des problématiques théoriques, là aussi assez éloignées de Schmitt, à savoir celle d'un questionnement sur l'être avec comme intersubjectivité. Je veux dire que ce que Plessner, dans l'ouvrage de 1931, appelle l'entrelacement, la Verschränkung des perspectives de l'être avec et de l'être contre, l'entrelacement des perspectives de l'être avec et de l'être contre, miteinander und gegeneinander, peut s'inscrire dans une discussion du problème husserlien, mais aussi post-husserlien, de l'intersubjectivité et de la Fremderfahrung, donc du problème de l'expérience d'autrui, impliquant aussi et essentiellement le rapport du corps propre et du corps d'autrui, un rapport que Husserl esquisse dans la cinquième méditation cartésienne, où l'alter ego, ne pouvant faire l'objet d'une intuition ou d'une perception pure, est seulement saisissable parce que Husserl appelle une apprésentation analogisante, constituant un noyau d'altérité inaléniable en nous, sans nous, pour ainsi dire, comme un autre que nous. Selon la question fort débattue de l'accessibilité à autrui comme, je cite, inaccessible originaire, une formule de Husserl, inaccessible originaire. Et le lieu de cette tension, dans cette cinquième méditation de Husserl, la tension entre ces deux exigences, constituer l'autre en moi, le constituer comme autre, et d'ailleurs le lieu à partir duquel travailleront et travaillent plusieurs protagonistes de la philologie française post-husserlienne et post-heideggerienne, laquelle pourrait même s'articuler autour de cet axe directeur qui est le rapport du soi et de l'autre. Soit même pour un autre, au sens de Lévinas, soit même comme un autre, au sens de Ricoeur, ou encore soit même par un autre, au sens de Marion. Étant entendu que cette micro-intersubjectivité se répercute, selon des modalités à problématiser, sur la macro-intersubjectivité et la socialité de l'être ensemble d'une communauté. Alors c'est aussi ici que l'on pourrait ou qu'il faudrait engager un rapprochement avec la réinterprétation opérée par Jean-Luc Nancy dans la communauté des œuvrés et ailleurs, de l'être avec, c'est-à-dire du Mitsein, Mitdasein de Heidegger, de cette coexistence ou être avec corrélatif de l'être là, du Dasein. Il faudrait alors se demander, avec plus de précision que je ne le peux ici, dans quelle mesure cette réinterprétation nancéenne et la logique de l'avec, ou de l'être avec, que Nancy en déduit, est légitime et suffit à fonder le cum, l'avec, dans sa pensée de la communauté, ou de l'essence de la communauté. Une interrogation similaire pourrait toucher la reprise par Esposito, Agamben et d'autres de l'être avec heideggerien, de ce syntagme réinvesti par ses penseurs. Ce qui supposerait au préalable de clarifier certains points dans les textes de Heidegger lui-même et de se pencher notamment sur la critique heideggerienne de la doctrine husserlienne de l'intersubjectivité. Alors, je ne fais ici qu'une allusion furtive à ce problème, car j'avais dit au début que je ne solliciterais presque pas Heidegger. Bon, on s'en doute, alors je le dis vraiment en quelques mots, on s'en doute, généralement Heidegger ne peut que récuser la doctrine ou les doctrines, parce qu'il y en a plusieurs, husserliennes de l'intersubjectivité, et les multiples tentatives de penser la constitution d'autrui comme alter ego, de penser ce rapport intersubjectif, être avec. On peut dire schématiquement que Heidegger rejette les termes mêmes dans lesquels le problème de l'intersubjectivité est posé. L'accès à autrui, par saisie analogisante, ne se pose même pas pour lui, parce que l'intersubjectivité, comme le sujet ou l'ego transcendantal de Husserl, ne peut qu'être dérivé d'une structure, à savoir d'une structure d'adresse, de la structure communicative du logos, de la parole. L'être-là, le Dasein, est un être avec, un mit-Dasein donc, un mit-Sein, avant la constitution en ego et en alter-ego. Car l'être-là est toujours facticiellement au monde avec autrui, et ce, en s'adressant à lui. En parlant avec autrui. L'Egain, parler, c'est toujours déjà parler à, converser avec, discuter avec, communiquer avec. Et ce parler ensemble ouvre la possibilité, sur un mode très aristotélicien, néo-aristotélicien, d'un être ensemble au sens d'une communauté politique. Or, Jean-Luc Nancy paraît souscrire à cette ambition ontologique heideggerienne de dégager un lieu situé avant le rapport intersubjectif ego-alter-ego. Un lieu pré- ou archi-social, censé circonscrire l'essence de la communauté, ou qui ouvre au moins, pour le dire plus modestement, la possibilité de la penser et de l'imaginer, cette communauté. Il faut certes préciser, nuance décisive, que ce lieu de l'être avec est marqué par une irréductible finitude que Nancy pense à partir de Heidegger, à partir d'un certain Heidegger, en recyclant, si je puis dire, sa notion d'être pour la mort comme fondement mortel, c'est-à-dire en fondant la possibilité de la communauté sur la mort comme possibilité de l'impossibilité de cette communauté, comme possibilité de la perte de l'immanence des membres de cette communauté. Présence paradoxale de la mort, toujours possible, qui empêcherait, selon Nancy, de faire de la communauté une œuvre fermée sur elle-même, ou l'hypostase collective d'un sujet métaphysique comme patrie, nation, ethnie, etc. C'est-à-dire d'une communauté chaude, prétendument autosuffisante, dont l'être avec identitaire, se constitue par le biais d'une opposition exclusive, par le biais d'une figure de l'ennemi virtuellement destructible, comme chez Schmitt, on l'a vu. Or, c'est sur cette absence de communauté comme principe de finitude que se fonde la communauté des êtres mortels, absence que Blanchot a précisément qualifiée d'inavouable, car ce défaut originaire, cette vérité de la mort, cette commune exposition à la mort, serait impossible à révéler par des aveux, impossible à reconnaître. L'essence de la communauté n'étant pas elle-même communautaire, ou étant précisément ce qui la nie. Blanchot encore a appelé cette absence constitutive principe d'incomplétude, et Bataille, auquel il se réfère, principe d'insuffisance. C'est ici que je vois qu'on peut voir une intersection éventuellement intéressante avec Plessner, auquel je reviens, en sollicitant plus précisément son concept d'artificialité naturelle, basé sur son concept de positionnalité excentrique, fondement anthropologique de la communauté politique, qui n'est pas aussi nécessairement ordonné à la mort, du moins pas de façon aussi centrale et matricielle que chez Nancy ou Blanchot ou Bataille, sans parler de Heidegger. L'entre-deux, entre le monde et le milieu, entre la sphère étrangère et la sphère familière, pour reprendre ces distinctions décrites, sollicitées tout à l'heure, implique en effet ce que Plessner appelle dans son texte de 1931 la nécessaire artificialité naturelle. Natürliche Künstlichkeit, la nécessaire artificialité naturelle de l'être humain. L'être humain, dans sa finitude, est exposé à l'infinité ou infinitude ou l'Endlichkeit du monde. Finitude naturellement déséquilibrante qu'il doit sans cesse compenser artificiellement, en vertu même de son indéterminité, Unbestimmtheit à soi. Il est une question ouverte, dit le texte de 1931. Selon ce que Plessner appellera plus tard un principe d'insondabilité, un principe d'unergründlichkeit, ou selon ce que Hans Blumenberg, héritier des concepts de l'anthropologie philosophique allemande, pensera sous le nom de principe de raison insuffisante, à partir de l'être de manque ou l'être en manque, le Mangelwesen d'Arnold Gehlen, un autre protagoniste de l'anthropologie philosophique allemande. Donc, la notion d'artificialité naturelle, donc, exposé en 1931 dans cette dimension politique, sous l'horizon de la question du pouvoir, et qui avait retenu l'attention de Schmitt, procède de l'anthropologoumène cardinal de Plessner, qui est la positionnalité excentrique. Excentrische positionnalité. Notion développée en 1928 dans les degrés de l'organique. Son maître ouvrage non traduit, lui non plus, mais en cours de traduction. La loi anthropologique de l'artificialité naturelle est liée à la structure excentrique, c'est-à-dire fondamentalement déséquilibrée, de l'existence humaine. L'être humain a une position centrale et périphérique à la fois, pour Plessner, au point qu'il faut dire que l'être humain est paradoxalement excentré face à son milieu. Il n'a de rapport à soi et au monde que biaisé. Il n'a d'accès à la réalité qu'indirect, selon ce que Plessner appelle la loi de l'immédiateté médiatisée, que j'évoquais rapidement tout à l'heure. La loi de l'immédiateté médiatisée, loi anthropologique à laquelle fait également référence le texte de 1931. Pour Plessner, l'artificialité est l'expression même de la nature humaine. L'être humain, cet émigrant de la nature, constitutivement apatride, Heimatlos, pour citer ici des formules des degrés de l'organique, dans le 128, est naturellement artificiel, car il doit toujours déjà compenser, sans jamais pouvoir les résorber, les déficiences, les insuffisances, les manques, les déséquilibres liés à sa positionnalité excentrique. Positionnalité biologiquement faible et inadaptée, non spécialisée, au sein de la nature. L'être humain est contraint, en raison même de son déracinement natif, lié à sa non-dépendance à l'égard de son milieu biologique, son Umwelt, de se créer une seconde patrie par les opérations culturelles, c'est-à-dire artificielles et techniques, de l'immédiateté médiatisée. Et cette tendance de l'être humain à recréer une patrie ou un foyer c'est-à-dire sa tendance anthropologique fondamentale à former une communauté naturellement artificielle, est donc première, selon Plessner. Elle s'impose à partir de son essentiel hors de chez soi, si je puis dire, qui est sa positionnalité excentrique et extatique, singularité de son statut de vivant à la fois situé à l'intérieur et à l'extérieur du règne animal. Et cette positionnalité excentrique ne procède pas primordialement de la possibilité qu'a ce vivant de mourir, possibilité de la mort qui est précisément l'extase pensée chez Nancy à partir de Bataille, de Schelling et de Heidegger. Pensée comme impossibilité de l'immanence absolue. Impossibilité inavouable qui relie, en les partageant, les êtres singuliers, pour parler comme Nancy. Cette extase de la mort par laquelle les êtres singuliers communiquent leur singularité, avant toute socialisation dans une société. Or, par la thématisation de la positionnalité excentrique de Plessner, structure anthropologique délestée du pathos de la finitude, on pourrait infléchir la pensée d'une communauté comme commune exposition extatique à la mort, vers une pensée de la communauté naturellement artificielle du vivant humain excentrique. Mais il faut remarquer, en guise de conclusion, que les deux types d'extase, au fondement métaphysique et anthropologique, tant d'une communauté désœuvrée ou inavouable que d'une communauté excentrique, se retrouvent d'une certaine manière dans une sorte d'humanisme anti-humaniste, qui est finalement un hyper-humanisme. La première, de matrice heideggerienne, qui pense l'être humain comme expulsé hors de lui-même, décentré d'un centre qui serait l'homme comme sujet moderne ou égo transcendantal, tout en prétendant réveiller la vérité profonde de l'humanité de l'homme, qui est sa mortalité, se révélant à lui comme ce qui n'est pas lui. La seconde, de matrice plessnérienne, qui pense l'être humain, par contraste avec l'animal, comme ce vivant ayant son centre de gravité hors de lui-même, selon sa positionnalité excentrique qui exprime son artificialité naturelle. Ni l'un ni l'autre, cependant, paraissent susceptibles d'échapper à la définition de l'homme comme animal métaphysique, et par conséquent à un type de communauté plus ou moins fondée sur le langage révélateur de finitude ou d'excentricité. Ces deux schèmes de la communauté réitèrent, tout en décentrant et en extasiant son sujet, la définition canonique, c'est-à-dire aristotélicienne, de l'homme comme seul animal rationnel, doué de parole, possédant la parole, et par ce privilège même, seul animal politique, au sens où la possession de la parole implique un être avec ou un être ensemble, qui est principalement et matriciellement un parler avec, un parler ensemble. Et en vertu de cette connexion aristotélicienne, ou aristotélisante plutôt, le bien ou le bonheur, si j'ose dire, du particulier concret, qu'il soit philosophe ou non, est étroitement associé au bien ou au bonheur de la communauté, dans le cadre de laquelle il peut s'épanouir, ou il est censé s'épanouir. Dans ce sens, la communauté et le particulier ne s'opposent pas, mais se distinguent comme le tout et la partie. Je ne vois pas, par exemple, comment chez Jean-Luc Nancy, la pensée du singulier et du pluriel, la pensée du caractère originairement singulier et pluriel de l'existence partagée, échappe à cette corrélation. C'est plus généralement cette destination politique de l'animal parlant qui, aujourd'hui, peut et doit faire question. Et s'il fallait dépasser ou élargir ces modèles matriciels de communauté, c'est aussi cette conception de l'homme comme seul animal langagier et donc politique, dans sa finitude même, qu'il faudrait problématiser, sous l'horizon d'une problématisation post-humaine ou post-humaniste, dans ce sens. Problématisation qui ne se contenterait pas d'excentrer l'humanisme, mais qui tâcherait de l'inscrire dans un questionnement sur la possibilité d'un être ensemble, qui ne comprendrait pas seulement les animaux ou les vivants humains, les animaux humains ou les vivants humains, naturellement artificiels, mais aussi les animaux ou les vivants dénués ou privés de langage, et les prothèses et les organismes technologiques ou télétechnologiques artificiellement naturels. Autant de questions qui restent ouvertes. Enfin, je vous remercie.